Laudetur Jesus Christus.
Emmanuel Macron attendu au Vatican ce matin en marge de sa venue pour la signature du traité du Quirinal qui veut sceller l'amitié entre la France et l'Italie. Dans ce journal, la colère des Soudanais qui continuent de dénoncer la mainmise des militaires. Reportage à suivre de notre correspondant à Khartoum. Nous parlerons aussi de la mobilisation nationale des pêcheurs français aujourd'hui qui attendent toujours de poser leurs filets dans les eaux britanniques. Et puis gros plan sur la sécheresse qui touche plusieurs parties du monde, notamment au Kenya et en Iran, qui connaît une crise de l'eau toujours plus prégnante, une crise due à la conjugaison de plusieurs facteurs. Analyse en fin de journal.
Radio Vatican, le journal. Manuela Figi.
Bonjour à tous. Une signature historique entre la France et l'Italie ce vendredi. Le président Macron est arrivé à Rome hier pour signer le traité du Quirinal avec le président du Conseil italien. Un accord qui doit sceller l'amitié franco-italienne tout en renforçant la coopération au sein de l'Union européenne. Les précisions de Blandine Hugonnet.
C'est pour une cérémonie en grande pompe au Quirinal, siège de la présidence italienne, que le président français Emmanuel Macron et le chef du gouvernement italien Mario Draghi vont se rejoindre ce matin pour paraffer ce traité franco-italien. 60 pages en tout, qui détaillent le fonctionnement de cette coopération bilatérale dans chaque domaine, économie, défense, affaires étrangères, migration, culture, jeunesse. L'objectif, éviter les divergences et se rapprocher pour parler d'une seule voix à Bruxelles ou à l'ONU. Un rapprochement qui a mis 4 ans à aboutir. Le traité avait été gelé à cause de tensions avec le gouvernement populiste italien en 2018. Une amitié franco-italienne scellée aujourd'hui qui ouvre un autre axe entre pays fondateurs, 60 ans après la signature historique du traité franco-allemand. Un accord qui intervient surtout en pleine instabilité européenne entre l'impact du Brexit, des oppositions sur les valeurs de l'Europe, la fin de l'ère Merkel en Allemagne. Hier, le président de la République italienne Sergio Mattarella a accueilli son homologue français à Rome avec ces mots. Un lien plus fort entre l'Italie et la France contribue à construire une Europe plus forte, d'autant plus nécessaire face aux défis qu'elle doit affronter aujourd'hui. À Rome, Blandine Gonnet pour Radio Vatican.
Emmanuel Macron qui est attendu, je vous le disais, au Vatican à 11h pour une audience avec le pape François. C'est la deuxième de son quinquennat. Plusieurs questions devraient être au menu des discussions aujourd'hui. Les migrations, les sujets sociétaux et bioéthiques, le rapport de la SIAZ ou encore la situation du Liban. Nous y reviendrons dans notre journal de 13h. Le pape qui a rencontré dans l'après-midi hier une cinquantaine de jeunes de Scola Socorrentes, ce réseau éducatif mondial qu'il suit de près depuis sa création. Répondant à plusieurs questions, il a une nouvelle fois dénoncé des camps de concentration le long des côtes libyennes où les migrants, dit-il, sont capturés. La Martinique sous couvre-feu, une décision du préfet devant la persistance des violences urbaines de ces derniers jours. Cette mesure, dit-il, sera en vigueur jusqu'au retour au calme. Couvre-feu décrété aussi dans les îles Salomon. Nous sommes dans le Pacifique cette fois, qui en sont à leur 3e jour d'émeute et c'est surtout la capitale, Honiara, qui est concernée. Cette nuit encore, des manifestants ont tenté de prendre d'assaut la résidence du Premier ministre et hier, c'est un quartier chinois qui a été attaqué. Cette colère vise le chef du gouvernement et sa politique philo-Pékin, alors que la population, elle, a des liens forts avec Taïwan. Ouvrons une page africaine plutôt dense ce matin avec le Soudan où des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays hier dans une atmosphère globalement calme, sans coupure des communications ni blocage des voies d'accès par l'armée. Réunis officiellement pour rendre hommage aux 42 personnes tuées depuis le coup d'État, les manifestants entendaient surtout réclamer un vrai changement et dénoncer l'accord conclu entre les militaires et le Premier ministre. Le reportage d'Eliott Brachet.
En tête de cortège, les portraits des 42 martyrs de la révolte contre le coup d'État. Abderrahmane continuera à manifester tant que les généraux ne seront pas jugés pour ces crimes.
Nous voulons être gouvernés par des civils. Nous n'avons rien contre le retour de Abdallah Hamdok, mais nous ne voulons pas d'un pouvoir dirigé par les militaires. L'accord ne change pas grand-chose. Les généraux sont toujours là et les décisions de Burhan toujours en vigueur. Jusqu'à présent, l'accord n'a pas arrêté la répression, la violence et les arrestations.
Pour d'autres comme Souhanda, l'accord signé par le Premier ministre est un coup de poignard dans le dos.
Il est revenu au prix du sang de Soudanais qui n'a pas cessé de couler. Il a signé cet accord et une heure plus tard, nous avons perdu un martyr à Omdurman. Pour le moment, cet accord ne donne pas de résultat. Un jour, on signe un accord avec les militaires. Le lendemain, au réveil, ils massacrent un sit-in pacifique. Un autre jour, on signe un accord avec eux. Ils font un coup d'État et tuent 42 personnes. On se réveille une autre fois et le Darfour est à feu et à sang. Nous n'avons pas confiance.
Tout le pays est avec le Darfour, pouvait-on entendre dans les cortèges, alors que 14 villages ont été rasés par des milices, tuant au moins 100 personnes et blessant des centaines d'autres. Eliott Braché, Khartoum, Radio Vatican.
En Gambie, la commission Vérité et Réconciliation a rendu hier un rapport clé au chef de l'État, le fruit de plusieurs années d'enquête sur les crimes commis durant les années de présidence de Yahya Jammeh, aujourd'hui en exil en Guinée équatoriale. Et la liste de ces crimes est longue: assassinat, actes de torture, disparition forcée, viol, arrestation arbitraire. Des centaines de personnes en ont été victimes. Le rapport appelle à punir les coupables sans toutefois donner de nom. Le nord du Kenya en proie à une crise humanitaire. La sécheresse affecte près de 3 millions de Kenyans dans cette région aride du pays. En cause, le dérèglement climatique. La réponse du gouvernement est jugée insuffisante face à une crise alimentaire majeure. À Nairobi, Charlotte Simonard.
La terre rouge d'Afrique craquelée, les puits asséchés, la population et les troupeaux affamés, voire mourants. Le nord du Kenya vient d'enchaîner 3 mauvaises saisons des pluies et la prochaine n'est pas attendue avant plusieurs mois. Des populations qui vivent essentiellement de l'élevage, mais les bétails sont décimés par la soif. Des conflits éclatent entre tribus en quête de la même chose, de l'eau. Effet direct du dérèglement climatique, il y a quelques années encore, les périodes de sécheresse survenaient tous les 5 à 7 ans. Et désormais, seuls 2 à 3 ans les séparent. Trop peu pour régénérer les points d'eau en suffisance. Selon l'ONU, plus de 465 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition et 93 000 femmes enceintes. En septembre dernier, le gouvernement kényan avait bien déclaré catastrophe nationale cette région du nord du pays. Mais l'argent débloqué est insuffisant devant l'ampleur du désastre et n'arrive pas sur le terrain. Les Nations Unies lancent une levée de fonds colossale pour venir en aide à ces populations, alors que l'Éthiopie et la Somalie souffrent également de cette sécheresse qui n'en finit pas. Charlotte Simonard, Nairobi, pour Radio Vatican.
Une nouvelle inquiétante qui vient d'Afrique du Sud. Des scientifiques ont constaté l'apparition d'un nouveau variant du coronavirus, potentiellement très contagieux et aux multiples mutations. Le Royaume-Uni a aussitôt interdit les vols avec le pays d'Afrique australe et plusieurs États voisins. Le bras de fer se poursuit justement entre la France et la Grande-Bretagne autour de la pêche et aucune issue ne semble poindre à l'horizon. Les pêcheurs français vont bloquer ce vendredi l'accès de 3 ports et du tunnel sous la Manche aux frettes en provenance de Grande-Bretagne. Ils déplorent de ne pas se voir octroyer des licences de pêche dans les eaux britanniques, comme le prévoit l'accord du Brexit. Olivier Bonnel.
Les pêcheurs français veulent envoyer un coup de semonce, ce sont leurs mots à leurs voisins britanniques. Selon l'accord négocié après la sortie des Britanniques de l'Union européenne, des licences de pêche devaient être attribuées aux marins pêcheurs français pour qu'ils puissent aller jeter leurs filets dans les eaux anglo-normandes. Or, Londres ne délivre ses précieux sésames qu'au compte-gouttes. Sur les 175 licences demandées, 71 sont encore bloquées. En ce moment, il y a ceux qui pêchent et qui remplissent les viviers en prévision de la forte activité de la fin de l'année, et les autres qui les regardent, a déploré le président national du comité des pêches. Les accès aux ports de Calais, mais aussi de Ouistreham et de Saint-Malo en Normandie et en Bretagne seront donc bloqués aujourd'hui, tout comme le terminal de fret du tunnel sous la Manche. Le responsable de la pêche du département des Hauts-de-France a expliqué que cette opération était une façon de répondre à l'attitude méprisante et humiliante des Anglais. La Commission européenne, elle, a laissé jusqu'au 10 décembre au Royaume-Uni pour qu'elle règle ce dossier.
Olivier Bonnel. Et les relations franco-britanniques qui se tendent aussi autour de la question migratoire, surtout après le drame survenu mercredi et la mort de 27 personnes dans le naufrage de leur embarcation au large de Calais. Alors que Londres et Paris disaient vouloir intensifier leur coopération, voilà que Boris Johnson demande à la France de reprendre les migrants arrivés illégalement en Angleterre depuis les côtes françaises. La Russie est endeuillée par un accident dans une mine de charbon de Sibérie. On compte 52 personnes qui sont mortes. Les causes de cet accident ne sont pas encore connues, mais ce type d'accident est assez fréquent dans le pays. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Elles veulent protester contre les ingérences politiques. Au Liban, 3 femmes juges ont donné leur démission, signe d'un bras de fer qui se tend entre la justice libanaise et une partie de la classe politique, autour notamment de l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth. Le juge Tarek Bitar voit son travail régulièrement entravé par de multiples recours contre lui pour l'empêcher de lancer des poursuites contre d'anciens ministres et députés. Sécheresse au Kenya, nous l'avons vu, mais aussi en Iran, où le phénomène y est chronique, mais tend à s'aggraver. C'est le sud-ouest du pays, non loin de l'ancienne Mésopotamie, qui est particulièrement touché. Ces derniers jours, des milliers d'Iraniens sont descendus dans les rues du pays, comme à Ispahan, pour dénoncer les pénuries, pour crier aussi leur colère contre des projets de transfert d'eau vers d'autres provinces. Le guide suprême a reconnu que c'était là le problème de l'Iran, et le président Raïsi a promis de le résoudre. Entre mauvaise gestion du système hydrique, corruption et problèmes liés au réchauffement climatique, l'eau est en effet devenue un enjeu capital pour la République islamique, un pays qui pourtant n'en manque pas, mais où les disparités sont criantes avec Téhéran ou les hauts plateaux. Bernard Ourcade, chercheur associé au CNRS et spécialiste de l'Iran, revient avec nous ce matin sur l'ampleur de ces défis pour le pays.
La sécheresse cette année est marquée, elle n'est pas pire que les autres années. Le problème qui se pose en Iran et dans beaucoup de pays voisins, c'est peut-être en raison des troubles politiques notamment qui ont ravagé la région, l'absence de politique de gestion de l'eau. Donc les gouvernements, quels qu'ils soient, et notamment en Iran, depuis plusieurs années, sont confrontés à une mauvaise gestion de l'eau, qui est d'ailleurs une décision politique qui a été faite, avec beaucoup de corruption, etc. Et les Iraniens se rendent compte que de l'eau, il y en a en Iran, en abondance finalement, il y a des hautes montagnes bien enneigées, dont les ressources en eau existent, même si elles sont limitées. Et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une mauvaise gestion de cette eau qui est gaspillée, mal utilisée, et c'est cela qui pose problème, autant que la sécheresse elle-même, qui est par ailleurs une réalité.
C'est surtout le sud-ouest de l'Iran qui est frappé par cette sécheresse. Les manifestants ont exprimé leur colère contre des détournements d'eau. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus?
Oui, le sud-ouest de l'Iran, la région du Karun, du Kadre, c'est-à-dire la Mésopotamie, la basse Mésopotamie, c'est la région qui est la plus irriguée en Iran. Elle regroupe 40% de l'eau iranienne, des fleuves iraniens, sont ces grands fleuves du sud-ouest de l'Iran. Et donc de l'eau, il y en a. Le problème, c'est que cette eau a été détournée, et ceci depuis le XVIe siècle d'ailleurs, détournée vers le centre de l'Iran, vers le plateau iranien, pour irriguer justement les régions beaucoup plus arides qui ne bénéficient pas de tant de richesses naturelles. Et ce qui était simplement le détournement de quelques milliers de mètres cubes il y a 100 ans, c'est devenu des centaines de milliers de mètres cubes par jour qui sont détournés ainsi du Rouzistan du sud-ouest de l'Iran vers le plateau iranien, un moment vers Ispahan, et là tout allait bien pour les gens d'Ispahan, et maintenant cette eau est détournée pour alimenter les villes du centre du désert, éloignées de 300 à 400 kilomètres des montagnes.
Cette crise liée à l'eau montre que l'Iran est un pays morcelé, où il n'y a pas d'unité entre les provinces, qu'il y a beaucoup de déséquilibre.
Alors justement, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que le fait que le gouvernement, les gouvernements, et ça date aussi de l'époque du Shah, ce n'est pas la République islamique qui a mis cela en place, ces projets de détournement de l'eau et d'apporter de l'eau aux régions qui n'en ont pas, c'est au contraire une politique de partage de l'eau et donner de l'eau aux régions qui n'en ont pas. Sur le papier, c'est parfait. Le problème, c'est que dans la réalité, il y a une mauvaise gestion de ces questions. Et bien souvent, on a créé des barrages qui ne servent à rien. On a parlé en Iran de mafia de l'eau. Et donc, c'est un problème de gestion politique générale qui fait que les mafias, notamment des travaux publics, construire un barrage, ça rapporte de l'argent à des gens qui ensuite se moquent de l'eau. L'essentiel, c'est de construire un barrage. À quoi il sert ensuite? Peu importe, on a construit un barrage, c'est l'essentiel.
Est-ce que ces manifestations, cette contestation sociale qui s'ajoute déjà aux troubles et aux mouvements de colère de ces derniers mois ou de ces dernières années, peut être dangereux pour le nouveau pouvoir iranien?
Ce qui est très intéressant justement, c'est que le gouvernement de M. Raïsi, qui a été élu il y a quelques mois maintenant, ce gouvernement a décidé de montrer cela à la télévision. Pour la première fois, les émeutes, les manifestations, elles ont été gigantesques à Ispahan il y a 3 jours, sont montrées à la télévision. Et ce problème de l'eau est mis sur la table. Cela dit, la crise économique, les sanctions américaines sur l'Iran sont telles que les gens sont KO debout et n'ont même plus la force de se révolter. Qu'est-ce que ça va donner? J'avoue que je n'en sais rien. Mais il n'y a pas actuellement en Iran de dynamique de révolte, plus une dynamique de résignation. Et le gouvernement Raïsi, malgré ses images et son idéologie conservatrice, est très pragmatique. Et actuellement, on sait que 60 ou 70% des Iraniens, d'après quelques sondages assez crédibles, pensent que le gouvernement de Raïsi pourra trouver des solutions pour résoudre ce genre de problème.
Voilà, interrogé par Olivier Bonnel, le chercheur Bernard Ourcade, spécialiste de l'Iran, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Et puis une petite nouvelle de dernière minute. Au Kyrgyzstan, c'est donc en Asie centrale, la police a annoncé l'arrestation de 15 personnes soupçonnées de préparer un coup d'État à 2 jours des élections législatives. Nous y reviendrons. C'est la fin de ce journal. Merci de votre écoute fidèle. Retour de l'actualité vaticane et internationale en langue française à 13h. D'ici là, belle matinée à toutes et à tous.